Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Et vous êtes en compagnie de
Anthony
et Guillaume. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la rencontre avec Philippe Barbeau. Donc, je laisse la parole à Anthony.
Donc, on va discuter notamment pourquoi c'est un auteur jeunesse déjà, mais on va discuter pourquoi c'est un auteur jeunesse justement. On l'avait rencontré le 17 novembre.
Ouais,
oui, 17 novembre. Au CDI pendant 2 heures avec Madame de Batty et Madame Geoffroy.
Ouais, c'est ça. Il nous a expliqué son parcours.
Et la fameuse question est venue au bout d'un moment, justement pourquoi c'était un auteur jeunesse. Et en gros, il préférait beaucoup écrire pour les enfants parce que pour les adultes, c'est un peu plus, c'est plus compliqué en fait d'écrire pour les adultes. Il nous avait dit que d'écrire pour des enfants.
Et il nous a dit qu'il était plus vers les enfants parce que pour lui, il est encore plus enfantin que vers un auteur plus vieux.
Par exemple, en gros, c'est un peu il nous dit, précisait bien, c'est un peu un gamin dans, c'était un peu un gamin dans sa tête, quoi. Par exemple, pendant le midi, lors de convention, il aimait pas aller à des tables avec des auteurs vieillesse parce que c'est un peu vieillesse. Voilà quoi, mais des auteurs de
comme Nathan, celui il est plus avec Nathan
pour,
jeunesse.
Pour adultes quoi, des auteurs pour adultes parce que c'est un peu ennuyeux à leur table. Donc on va vous faire écouter un extrait de Philippe Barbeau et puis à tout de suite.
Voilà, cela dit je suis très très bien dans le milieu où je suis, pour plusieurs raisons, c'est que maintenant, on n'ose plus. Hein. J'ai les cheveux blancs et tout, donc on n'ose plus. Mais moi, on m'a traité de gamin pendant très longtemps. Je crois que j'ai jamais oublié l'enfant que j'étais. Et je pense que c'est une caractéristique des auteurs jeunesse. Enfin, auteurs illustrateurs jeunesse, je pense qu'on a... Alors, si tu le dis à certains de mes collègues, ça va les énerver. Hein. Mais moi, je le crois beaucoup. C'est un milieu que je connais bien. Donc, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Hein. C'est qu'on a, on n'a jamais oublié l'enfant qu'on était, nous. Alors que les auteurs pour adultes, souvent, c'est, tu vois, par exemple, quand on se fait un salon, ce qu'on appelle les salons mixtes, hein, c'est-à-dire avec les auteurs jeunesse et les auteurs vieillesse, lorsqu'il y a le repas du soir, parce qu'il y a souvent un gueuleton le samedi soir, tu vois, et alors là, il y a une chose à faire, c'est surtout éviter une table où on se retrouve seul auteur jeunesse avec que des auteurs pour adultes. Là, ils nous snobent, en général ils se bouffent le nez entre eux, et donc on passe une soirée infernale. Par contre, on a quelquefois des auteurs vieillesse qui viennent avec nous, parce que justement, ils n'ont pas envie de s'ennuyer. Donc nous, on est un peu gamins, mais bon, c'est pas grave.
Hein? Donc, rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Capucin 94.5 FM, toujours en compagnie de et moi-même Anthony. Donc, c'était l'extrait de Philippe Barbeau sur pourquoi il est un auteur jeunesse. Donc, dans cet extrait, comme on l'avait dit avant, il
préfère, comme il l'a dit là... des auteurs plus jeunes sur
parce
une table.
Il aimait pas trop les auteurs vieillesse.
Parce que pour lui, il est jeune dans sa tête.
Donc voilà. Et est-ce que t'as bien aimé la rencontre avec Philippe Barbeau, toi ?
Bah oui, ça a été. Et toi ?
Ouais, c'était bien. Perso, dans certains trucs qu'il disait, je me suis un peu retrouvé dedans. Donc voilà. C'était bien.
Car à la fin. Qu'est-ce que tu lui as donné ?
Hein ? Ah oui, à la fin, on m'avait proposé de faire un portrait de lui, donc je l'ai fait. Et puis, voilà, je lui ai donné. Il m'a encouragé pour mes études et tout ça, c'était sympa.
Donc,
Donc, voilà, on espère que l'émission vous aura plu. C'était
Guillaume et Anthony
sur Radio Capucin
94.5
FM. Au revoir, restez branchés.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, on est en compagnie de
Julien,
Kylian
et moi-même Moussa. Donc aujourd'hui, on va parler de Philippe Barbeau. Donc c'est un auteur jeunesse qui est venu au collège. Il est venu le jeudi 17 novembre. Donc on a fait une petite interview. On va vous décrypter ça.
Alors tout a commencé en classe. On nous a donné des livres à lire. On a vu qu'il écrivait beaucoup sur la guerre. Kylian, qu'est-ce que t'as lu?
La guerre des lianes. Qui et... parle sur sa mère qui a vécu la guerre et qui a fait un acte de résistance. Ah, avec des armes dans une poussette.
Avec un faux bébé aussi. Donc elle a ramené des armes dans un landau et avec un faux bébé dessus.
Ah oui, on avait vu ça. Ouais. C'était vraiment...
Bah personnellement, j'ai rien lu à cause de Kylian parce qu'il m'a pas donné son livre.
Moi j'ai lu quelques livres, mais...
Ouais, mais c'est quand même ouf de parler de sa mère, non? Ouais.
Oui. Et oui, justement, on va vous proposer d'écouter un extrait de Philippe Barbeau.
Donc c'était pendant l'interview.
C'est lequel de vos livres
mon préféré, c'est la série des Iliades, les 5 Iliades. Parce que c'est l'histoire de ma mère. Donc c'est obligatoirement mes préférés. Après, il y en a que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais en général, les derniers que j'ai faits, je les préfère aux autres. Parce que j'ai quand même fait quelques petits progrès en 30 ans. Donc,
Donc voilà, on vous a bien fait écouter l'extrait. Donc il dit vraiment que c'est la série des lianes, son préféré. Donc il dit surtout que c'est son préféré parce qu'il parle de sa mère et voilà.
Il a aimé écrire ce livre car c'est en rapport avec ce qu'a vécu sa maman, c'est normal. Et qu'elle a fait de la propagande en cachant des armes dans une poussette, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Franchement, ce qu'elle a fait et ce que lui a écrit sur sa mère, c'est vraiment ouf. Parce que voilà, il met un peu ses émotions dedans parce que voilà, il parle de sa mère. Donc.
Ouais.
Et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Marie, Inès et moi-même, Béatrice. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une rencontre avec Philippe Barbeau.
Donc on l'a rencontré à l'occasion du salon du livre qui s'est déroulé du 19 novembre. Et donc il est passé à Capucin pour qu'on puisse l'interviewer, et nous on a choisi deux parties, donc on va commencer sur la première partie.
Nous lui avons demandé s'il choisissait lui-même ses illustrations.
Et après il nous a parlé d'un certain Jérôme Brasseur, qui travaille avec lui, et Monsieur Brasseur est dessinateur. Il produit en partie des illustrations historiques.
Sur une illustration de la prise de la Bastille, il n'était pas trop d'accord, Monsieur Barbeau confirmait l'idée qu'il n'y avait qu'un seul pont-levis. Et M. Barbeau n'approuvait pas cette idée car lui affirmait qu'il en avait deux.
Il nous a aussi fait part qu'il ne préférait pas se fier à ses illustrations car il était certain d'avoir des goûts de vieux schnock.
Donc on vous laisse écouter l'extrait pour vous donner une idée de sa réponse.
Voilà, autre question? Oui.
Vous choisissez vous-même vos illustrations ou vous laissez la maison?
À la plupart du temps, non. Tu sais, l'éditeur, c'est lui qui a les sous. Donc ça donne un certain pouvoir. En plus, moi, j'ai appris... Tu vois, quand j'ai commencé mon premier bouquin, donc j'ai dû signer le contrat en 1983. Hein, le livre est sorti en 86, mais j'ai signé le contrat un an après le premier contact. Là, quand j'ai signé le contrat, j'ai dit à l'éditeur, ben, maintenant, je vais chercher un illustrateur. Il m'a dit non, un illustrateur est un artiste à part entière, il a le droit d'avoir sa propre vision d'un texte. Et il avait raison.
Parce que tu vois, maintenant, moi, il y a certains de mes illustrateurs que je connais très très bien, Thierry Crisman et entre autres Thierry Crisman et puis Jérôme Brasseur. On a au moins chacun une douzaine de bouquins ensemble, mais à tous les coups, ils me surprennent. Alors, dans deux styles extrêmement différents, mais ils me surprennent à tous les coups. Alors, moi, par exemple, Jérôme, je le conseille, enfin, je donne mon avis. Avec Thierry, c'est un peu différent. Parce que Thierry, c'est du... Enfin, les illustrations de Thierry, c'est ça. Hein. Voilà, c'est plutôt... Il est sur ces illustrations-là. Jérôme Brasseur, c'est ça. C'est-à-dire, en voilà 10 ou 11, illustrés par Jérôme. C'est de l'illustration historique. Hein. Donc là, c'est très différent. Je ne critique jamais... pour Jérôme, je critique jamais sa manière de faire les dessins. Par contre, je vais critiquer la vérité historique de ses dessins. C'est-à-dire que s'il fait une erreur historique dans un dessin, je lui dis. Hein? Après, on peut discuter beaucoup, par exemple sur celui-ci. On a beaucoup, beaucoup discuté sur un détail, puisque celui-là se passe le 14 juillet 1789, au moment de la prise de la Bastille. On a beaucoup discuté sur est-ce que le pont-levis de la première cour de la Bastille avait un. Enfin, est-ce qu'il y avait deux ponts-levis ou un seul? Moi, je pensais qu'il y en avait qu'un, et Jérôme m'a montré. Il m'a prouvé avec sa doc qu'il y en avait deux. Donc on en a mis deux. Tu comprends ? Hein ? Donc là, on discute vraiment. Après, les illustrateurs, moi je me méfie beaucoup de mes goûts. J'ai plutôt des goûts de vieux schnock. Donc tu vois, j'ai un exemple très récent avec celui-ci. Donc là, on est sur un album. Hein ? On est sur un album. Sur cet album. Au départ, j'avais conseillé une illustratrice dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Marjorie Pourchet. J'aime beaucoup le travail de Marjorie. Donc j'ai dit à l'éditeur, si c'était Marjorie, j'aimerais bien. Et l'éditeur m'a dit, en plus elle habite Besançon, c'est-à-dire moi j'habite à 17 km de chez elle, et il m'a dit, écoute, je regarde, et en fait lui il avait pris un contact avec Étienne Pajot, que vous connaissez pas parce que c'est son premier livre. En fait, Étienne, il est prof de design dans une école de Moulins, donc on est dans l'Allier, hein, une école, doit y avoir une école d'art appliqué, il a créé une et Étienne, il est tout jeune, hein, parce que là j'ai pris un coup de vieux, je l'ai rencontré il y a peu de temps, mais j'ai pris un coup de vieux il y a 15 jours parce qu'on était sur le salon de Brive ensemble. Et moi, L'odeur de la mer, mon deuxième livre, est sorti le 13 février 87, et Étienne est né le 17 février 1987. Donc, c'est la première fois que j'ai un illustrateur qui est plus jeune que mes bouquins. Donc, lui, il a choisi Étienne. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'Étienne, il habite aussi Besançon, alors qu'on est passé par un éditeur de Clermont-Ferrand. Mais bon, lui préférait Étienne. Moi, ça m'a surpris. Ses illustrations m'ont surpris. Mais après, c'est ça. Hein. Moi, il a. Ce qu'il faut, c'est que les illustrations soient fidèles à mon texte. Et là, c'est une histoire de petits. Hein. C'est une histoire. Il y a un pays où il n'y a que des petits et des grands. Et les grands gardent les petits de haut. Et les petits, ça les énerve. Il y a que des petits et des grands. Donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut. Et les petits, ça les énerve. Il y a que des petits et des grands. Donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut. Et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands gardent les petits de haut et les petits, ça les énerve. Il n'y a que des petits et des grands, donc voilà. Et les grands.
Il s'était imaginé des personnages arabes et son illustratrice. Lui a fait quelque chose de complètement différent. Vous allez voir la suite de l'histoire. Donc on vous laisse écouter le second extrait.
Moi j'ai cette chance là. Par exemple j'ai ce livre là, qui est un album qui n'est pas du tout un album pour les petits. C'est un album pour les grands. Hein. C'est sur la connerie de la guerre. Moi j'ai vu une maison à Beyrouth en 2003 lorsque j'y étais. Et il y a cette maison, elle était magnifique. Très 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 abîmée parce qu'elle avait beaucoup beaucoup souffert de la guerre.
Et il y avait une boutique de coiffeur en bas. Et cette maison, si vous voulez la voir, vous tapez Maison Jaune, Beyrouth, sur Internet, sur Google, ou Maison Baraka. Et vous la verrez, parce que moi, je ne le savais pas. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle, elle m'a complètement secouée. Et puis, il y avait une boutique de coiffeur en bas. Et ce qu'on m'a raconté, qui n'était pas tout à fait la vérité, mais ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on m'a dit, il y a le coiffeur, quand il y avait la guerre au Liban, il a continué de coiffer les gens qui viennent d'un côté ou de l'autre, qui viennent de Beyrouth Est ou de Beyrouth Ouest. Et ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai écrit ce bouquin. Et par exemple, là, ma compagne m'a fait une critique, une toute petite critique. Il y avait un petit truc qui coinçait au milieu. Elle m'a dit, là, tu as quelque chose qui ne va pas. Et j'ai jamais eu d'aussi belle critique que sur ce livre-là. Et c'est grâce à elle. Hein? Ouais, cette maison, il est question d'en faire un musée maintenant. En fait, elle est très particulière. Vous verrez il y a quatre vidéos. Il y en a une qui vous explique l'intérêt architectural. Ensuite, la vie des gens qui vivaient dedans, parce que c'est une jeune architecte qui l'a vue, en fait, relativement peu de temps avant que moi je la voie. Mais elle avait déjà cherché à la sauver, cette maison. Il reste des archives dans des trucs. Par exemple, il y avait un dentiste, il reste des trucs du dentiste. Donc le deuxième, c'est là-dessus. La troisième vidéo, c'est sur la vie, entre guillemets, de la maison pendant la guerre du Liban. Et c'est une maison très particulière parce qu'elle était à un carrefour. Et donc, il y avait des snipers qui se mettaient là et qui descendaient les gens qui passaient dans la rue. Et donc, c'est vraiment... Il y a encore les planques des snipers. Il y a même des graffitis de snipers. Hein? Et puis la quatrième, c'est sur l'avenir de cette maison, en faire un musée. C'est très intéressant, très très intéressant. Et donc moi, cette maison-là, tu vois, là, elle m'a fait une toute petite critique. Et moi, ça m'a. Mais je pense que c'est un album pour vous, ça. C'est pas du tout. Enfin, quand je le dédicace, en plus, il y a un boulot formidable de l'illustratrice. Alors là, voilà l'exemple. Moi, j'ai eu l'idée tout à l'heure. Tu me demandais par rapport si je choisissais l'illustrateur. Là, l'éditeur, c'est l'Atelier du Poisson Soluble, chez qui j'en ai pas mal. Je leur ai donné mon bouquin, mon histoire, et ils m'ont dit ce sera Marion Jeannin. Moi, j'avais fait des photos de la maison, je les ai envoyées à Marion. Et puis, premier dessin que je reçois, celui-là. Et moi, mes héros. Donc l'idée, je l'ai eu à Beyrouth. Mes héros s'appellent Amin et Karim, et je ne parle pas arabe, mais j'ai demandé à une Libanaise qui parle arabe de me donner des prénoms qui puissent avoir un rapport avec la guerre, ou avec la paix plutôt, et elle m'a dit Amin et Karim, alors je ne sais plus lequel veut dire quoi, mais il y en a un qui veut dire celui qui a la parole droite, celui en qui on peut avoir confiance, et l'autre ça veut dire généreux. Voilà. Et donc j'ai choisi des prénoms arabes parce que j'avais Beyrouth dans ma tête. Et ensuite, dedans, il y a un oud. Un oud, c'est un peu une sorte de luth, on va dire un ancêtre de la guitare, qui est vraiment typé arabe. Donc moi, j'avais Beyrouth en tête. Et quand j'ai reçu ça, quand j'ai reçu ce dessin, j'ai dit, mais attends, elle fait n'importe quoi, Marion. Alors là, je me suis adressé à l'éditeur. J'ai dit à l'éditeur, elle est complètement à côté de la plaque. Elle va me foutre ils ont des costumes laotiens, là. Et en fait, j'ai rencontré Marion après, et Marion, elle m'a dit... Alors, l'éditeur m'a dit, laisse-la faire, elle sait où elle va. Donc, j'ai laissé faire, j'ai joué le jeu. Et en fait, après, quand j'ai rencontré Marion, elle m'a dit, mais tu sais, la guerre... Alors, je vous lis les termes qu'elle m'a dit. Hein. La guerre, elle est aussi con quel que soit l'endroit du monde. Donc, je ne vais pas faire que sur le Liban. Je vais mettre des symboles de différentes civilisations. Par exemple, sur ce dessin-là, tu as l'Asie. Mais tu as aussi la Phénicie, c'est-à-dire le Liban autrefois. Hein, là, il faut me rectifier. Si... Mais la fontaine ici, c'est une fontaine phénicienne. Tu vois ? Et il y a des clins d'œil de planqués un petit peu partout dans le bouquin, comme ça. Et donc, voilà la preuve, tu vois, que aussi en matière d'illustration, ben, les illustrateurs ont beaucoup à nous apprendre. Aussi, des fois, ils voient des choses dans nos textes que nous, on n'a pas vues.
Bonjour, nous sommes sur Radio Capucin 94.5 FM. Nous sommes accompagnés de
Rabat,
Joanne
et moi-même Dylan. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Philippe Barbeau, un auteur de jeunesse.
Philippe Barbeau est un auteur jeunesse qui était le samedi 19 novembre 2016 au salon du livre du Mets-sur-Seine. Et à cette occasion, il était venu nous voir au collège pour nous rencontrer et nous parler un peu de lui. Le jeudi 17 novembre. Voilà. Alors, à cette occasion, il nous a parlé du nationalisme. Alors, je vous laisse écouter de ce qui, enfin, qu'est-ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit dessus. Alors,
je reviens juste sur les nationalismes un tout petit peu. Dire que si on ne fait pas attention, ça devient très, très, très dangereux. Hein, et il faut absolument, donc vous les jeunes, vous pouvez vous battre à ce niveau.
Donc voilà, comme vous avez pu, comme vous avez pu l'entendre, il l'a dit que c'était très dangereux et que nous, comme on est jeunes, et ben on pouvait
manifester.
Peut-être changer les choses. Donc alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Bilal, est-ce que tu sais c'est quoi le nationalisme?
Le nationalisme se manifeste quand les habitants croient leur pays menacé. Le nationalisme veut que toute la politique intérieure du pays vise à augmenter sa puissance. Le nationalisme vise à renforcer la puissance économique en développant le protectionnisme douanier à l'intervention et l'État dans l'économie.
Alors, moi aussi, j'aimerais rajouter un petit truc. Le nationalisme demande une politique démographique, une limitation de l'immigration et une interdiction de l'immigration. En gros, on n'a pas le droit de rentrer et de sortir du pays. Et il mène une politique militaire d'armement afin de renforcer ses moyens d'action face aux autres pays et de développer l'économie.
Et si je pourrais rajouter quelque chose, je voudrais dire que dans le domaine des relations avec les autres pays, bah, le nationalisme, il affirme que les autres pays peuvent manifester son pouvoir sans restriction de la part des organisations internationales, c'est-à-dire qu'en fait, il se préoccupe pas de la vie des organisations internationales.
Oui, il décide que pour lui-même.
Voilà. Ou de précautions philosophiques ou religieuses. Bah souvent, c'est la loi du plus fort qui s'impose aux autres.
En gros, souvent dans le nationalisme, il n'y a qu'une religion. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples nationalistes? Vous en connaissez. Marine Le Pen, elle est nationaliste.
Donald Trump
aussi.
L'Allemagne nazie.
Aussi, il y avait un exemple où l'Allemagne nazie, Hitler, il était nationaliste. D'ailleurs, en plus, par rapport à l'actualité, ce week-end en Autriche, le parti nationaliste autrichien a subi une défaite à l'élection présidentielle autrichienne face à l'écologiste qui, lui, était pour l'Europe. Et voilà. Et aussi, j'aimerais dire que le nationalisme est dangereux car il a pour but de refermer le pays sur lui-même. Cela peut inciter au racisme, comme Donald Trump qui a promis d'expulser tous les Mexicains des États-Unis et de construire un mur à la frontière mexicaine. Voilà. C'est des choses à rajouter?
Non.
Bon, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Capucin. Au revoir.
Standing policy.